BD culte, exploration de planches iconiques du 9e art. Ce mois-ci, nous allons nous pencher sur Astérix. Astérix, le mythe Astérix qui revient, 40e album qui vient de sortir en librairie. L'Iris Blanc, bien entendu, les auteurs ne sont plus là. Nous avons Didier Conrad au dessin et un nouveau scénariste, Fab Caro. Mais nous allons parler d'un autre album qui fait peut-être un peu écho à cet album, qui va dénoncer comment effectivement les Romains, via un personnage, vont essayer de semer la discorde dans le village gaulois. Alors, l'album de la discorde dans la série classique de Goscinny et d'Uderzo, c'est l'album 15, La Zizanie. La Zizanie a été prépubliée dans Pilote, du numéro 531 au numéro 552. Nous sommes en 1970. C'est l'album favori d'Uderzo. Selon lui, il y a plusieurs niveaux de lecture que nous allons voir. C'est effectivement un album qui correspond à la mort du général de Gaulle, donc une crise politique en France, et aussi, pour Goscinny, le scénariste, une crise au sein du journal Pilote, où il va être contesté par des petits jeunes qui montent, dont Jean Giraud, Moebius notamment. Alors, le pitch de cette histoire, rapidement, nous sommes à Rome, au Sénat, et César commence à être contesté. Il serait impuissant face aux irréductibles Gaulois. Il doit bien entendu trouver une solution. Alors, il va envoyer au village Tullius Détritus, qui est un personnage qui sème la zizanie partout où il passe. Sa mission, c'est de briser l'union des rebelles gaulois. Et y a une rumeur qui va être lancée, c'est Astérix aurait vendu le secret de la potion magique aux Romains contre un simple vase. Les Gaulois vont vite s'entre-déchirer, les poissons d'ordre alphabétique volent dans tous les sens, la guerre psychologique fait rage, est-ce la fin du village ? Suspense intenable que nous n'allons pas totalement dévoiler, mais nous allons revenir sur l'histoire d'Astérix et de cet album. Alors, la série Astérix est un projet qui a été élaboré pour le journal Pilote en 1959. Ce projet se base sur une amitié entre Goscinny et Uderzo qui se rencontrent en 51 à la War Press. Goscinny revient un peu amer des États-Unis et Uderzo se lance un petit peu dans l'illustration et le journalisme. Tous deux avaient le rêve avorté de bosser pour Walt Disney, ça n'a pas pu être possible. Et on a entre deux François Clotho, qui était fan de la revue Benjamin, qui les réunit et qui disent bah, essayons de lancer un magazine. Et ils se réunissent à Bobigny, et à Bobigny, en 90, on va trouver les vestiges d'un village gaulois. C'est assez rigolo, parce que c'est à Bobigny que l'histoire, le projet Astérix va se développer. Alors, au début, ils pensent adapter le roman de Renard, mais sauf que Jean Trubert est en train de le faire, donc c'est le projet tombe. Il y a l'idée de revisiter l'histoire de France, parce que, bon, Goscinny et Uderzo ont travaillé en 58 sur Oumpapa, qui a eu un succès d'estime, mais pas plus, qui n'a pas vraiment pris, puisqu'on est sur l'histoire des États-Unis et des Indiens. Là, c'est plus l'idée de retravailler sur l'histoire de la guerre des Gaules à travers des textes qui, via Jules César, qui a laissé ses impressions sur les Gaulois, prendre une tribu gauloise avec des rimes en X. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va essayer de lancer la revue Pilote, qui va être le journal de cette série qui s'appelle Astérix. Voilà. Et ce journal va fonctionner un peu difficilement, mais en 1960, c'est Georges Dargaud qui va le racheter et qui va sauver Pilote et qui va donc par la suite éditer et faire énormément de profit avec Astérix. Dans ce journal, on aura plein de petits concours autour de la série, le plus rigolo étant le concours du numéro 216, où on demandait à trouver le nom du chien qui sera, il s'appellera Idéfix et il apparaît dans le Tour de Gaulle. En tout cas, nos deux amis, Uderzo et Goscinny, vont collaborer ensemble pour 24 albums, qui sont autant de 24 chefs-d'œuvre de l'histoire du 9e art. Alors, au dessin, Albert Uderzo, né en 1927, il nous a quittés en 2020. Il est né à Fismes, dans la Marne. Ses parents sont italiens, immigrés en 1920. Dès 14 ans, il travaille pour la Société parisienne d'édition, qui va l'amener à rencontrer Calvo, un grand illustrateur. Ça va forcément lui donner des idées. Il va signer dès 1940 sous le pseudo Al Uderzo quelques petites séries, Clopinard, Harry Bucks et Bellois. Il va aussi débuter en tant que reporter dessinateur à France Dimanche. Il va être illustrateur pour France Soir. Il va collaborer avec Charlier et Hubinon. Il va fonder le studio Idéfix pour animer les dessins animés, enfin les bandes dessinées Astérix en 1974 avec deux films très réussis, dont Astérix et Cléopâtre. Et à la disparition de son ami scénariste, il va créer les éditions Albert René et divorcer de Dargaud. Il a eu le prix millénaire du festival d'Angoulême en 1999 et lors des 40 ans du festival, un hommage magnifique en 2013 avec une magnifique expo et une de ses dernières apparitions en grand public. Voilà, donc Astérix, c'est une histoire d'amitié, une alchimie entre deux amis, un sens du gag et de l'autodérision énorme qu'on doit énormément à ce René Goscinny, grand scénariste de la bande dessinée, né en 1926, il nous quitte en 1977. René Goscinny, lui, il est né à Paris, mais il est né à Paris d'une famille juive immigrée en Argentine. Et il va s'essayer au dessin publicitaire, il va essayer de lancer des séries, mais ça ne va pas vraiment marcher, le dessin, chez René Goscinny. Par contre, son séjour américain va lui permettre de rencontrer l'équipe de MAD, et c'est avec Kurtzman, notamment Wallace Wood et d'autres, et ça va beaucoup l'influencer sur son sens de l'humour et de la dérision. Il va commencer à bosser comme scénariste pour Spirou en 59. Il a repris avant la série Lucky Luke, dont nous parlerons dans un prochain épisode, et en 56, il va créer avec son père une magnifique série qui est d'abord une BD puis des romans illustrés, Le Petit Nicolas. On peut évoquer aussi Is No Good avec Tabari, Spaghetti avec Athanasio. Il va diriger Pilote de 1960 à 1970, Pilote, une des grandes revues de la bande dessinée. Et malheureusement, mauvais gag, en faisant un test d'effort cardiaque, il décède en 1977. Voilà, il est toujours parmi nous, René Goscinny. Si vous allez en 3e arrondissement, vous avez la rue René Goscinny. Avant, nous avions une librairie René Goscinny qui a fermé, malheureusement. Et grâce à lui, on a reconnu enfin la place du scénariste en bande dessinée avec le prix du scénario qui a été remis dès 1988 et qui a été officialisé par le Festival d'Angoulême. Alors, les deux planches audio que nous allons écouter de la Zizanie, ce sont les planches 16 et 17 que je vais analyser par la suite.
Ah, bonne mine, que m'apportes-tu pour le déjeuner, ma petite caille?
Ça! Ah, mes parents m'avaient prévenu que tu étais un minable! J'ai donné les meilleures années de ma vie à un gros sanglier! Un barbare, un raté, tout le monde me méprise.
Hein?
Oh, c'est pas à toi. Oh non, c'est pas à toi qu'on offrirait des vases précieux.
Oh, mais j'en ai ras le bol de ce vase.
Et grossier avec ça.
Tandis qu'il s'apprête à remonter sur son bouclier, le chef du village, à bras raccourcis, aperçoit l'immonde détritus se rendant chez Astérix.
Que veux-tu, Romain ?
Rien, je passais par là et je voulais vous faire un petit ave.
Bon, ave. Maintenant, reprends ton vase et rentre chez toi.
Il n'en est pas question. Mais je ne veux pas vous déranger plus longtemps.
Hein ?
Excellent, ce sanglier! Merci pour tout, Astérix!
Mais il est fou, ce Romain! Il va le prendre, son vase!
Alors, Astérix, on a des invités pour le sanglier?
Des invités, mais jamais de la vie! À part Obélix...
Pourtant, il avait l'air de le trouver bon, ton sanglier, ce Romain!
Mais il n'y a pas touché! Viens voir, entre! À bras raccourcis, au chef, nous avons deux sangliers et ils sont encore intacts.
Dis-moi, Astérix, tu ne te sépares jamais de ce vase?
J'allais le lui. Mais Obélix!
Tu as le droit de choisir tes amis, Astérix. Même chez l'ennemi, même chez les Romains.
Obélix, tu ne pouvais pas attendre avant d'avaler ces sangliers, espèce de goinfre.
Ils allaient refroidir, et quand tu es sorti pour suivre ton ami...
Ce n'est pas mon ami.
Oh, tu as le droit de choisir tes amis, même chez l'ennemi, même chez les Romains.
Mes amis, je les choisirai mieux dorénavant.
J'ai compris. Viens, Idéfix, nous sommes de trop ici. Ave Astérix!
À Alors, on a dans ces deux planches un gaufrier plutôt classique, entre 10 et 11 cases, mais on voit des cases rectangulaires en symétrie, où on voit des personnages qui rentrent et qui sortent, hein, Tidus Détritus, Abra Raccourci. Donc on a une mise en scène très théâtralisée, puisqu'on voit que cette histoire de zizanie et de personnages joue sur des caractéristiques du théâtre de boulevard, un petit peu. On a un jeu sur le lettrage, ça veut dire on crie beaucoup hein, dans ce passage. On a bien entendu donc, la taille des lettres qui deviennent énormes et grasses. On a même, à un moment donné, la graphie qui se déforme, le mot « ami » qui se glace, qu'on voit une glaciation des sentiments, une crise entre les personnages. On a des bulles sur fond vert hein, qui sous-entendent l'espèce de fiel et effectivement un énorme sens du mouvement et de la tragicomédie hein, qui est tout l'art des deux amis qui travaillaient vraiment de façon très complémentaire avec un découpage de Goscinny très précis des planches. Et on termine sur un cliffhanger terrible, le Ave Astérix, qui peut dire qu'en fait nos deux héros vont peut-être se séparer, et ça c'est terrible puisque toute la série fonctionne sur leur bonne entente. Voilà. Donc l'univers de cette série, c'est, on le sait quand on ouvre un album d'Astérix, on tombe sur un petit village d'Armorique qui seul encore résiste à l'envahisseur romain. Envahisseur romain qui est présent avec quatre camps romains qui entourent le village. On serait apparemment dans les Côtes d'Armor, mais on n'a pas vraiment identifié un village, tout ça est de la fiction bien entendu. On serait 50 avant Jésus-Christ, et en tout cas c'est un univers qui joue sur les caricatures et les stéréotypes. Alors, les personnages que l'on a, Astérix et Obélix, ce sont des signes typographiques, hein, l'Astérix et l'Obèle. On a des références à des personnages de cinéma. Dans cet album, on a Lino Ventura qui joue un centurion romain. Et dans chaque album, forcément, on a les bagarres sans mort, bien entendu, mais avec beaucoup de castagne, avec les Romains et les pirates, avec un petit clin d'œil à la série Barbe Rouge. Beaucoup de joie de vivre, hein, les banquets, les fous rires à chaque fois, un peu de magie celtique, la potion de Panoramix, bien entendu, qui les rend invulnérables, et la peur mythologique du ciel qui tombe sur la tête. On a un univers qui est un univers patriarcal, mais qui, paradoxalement, et on va le voir dans l'épisode La Zizanie, met en scène des femmes plutôt fortes, notamment les femmes de Marchand et Bonne Mine, la femme d'Abra Raccourcix. Alors, Astérix, qu'est-ce qui est cet Astérix ? Bon, bah, c'est effectivement, si on reprend l'étymologie, Aster c'est l'étoile, Rix c'est le roi. Astérix, ça serait, si on fait un petit jeu de mots, l'as des risques. Ça serait, selon Goscinny, l'image du français moyen dans ce qui peut avoir de meilleur, quelque part. Alors, dans un épisode fait bien après le début de la série, c'est un fils unique qui naît en même temps qu'Obélix. Il est le fils unique de Praline et d'Astronomix. Bien entendu, il est ami d'enfance avec Obélix. L'âge, on ne sait pas trop, parce que c'est autour de 35 ans. Il est de petite taille, lui, contrairement à son copain. Et il a un casque avec des plumes émotives, ça veut dire que les sentiments d'Astérix, son casque les reflète, ça c'est un gag visuel qui est très chouette, qu'on retrouve dans les albums. C'est un célibataire endurci, on peut dire qu'il est rusé, débrouillard, beau parleur, il a le sens de l'humour, et parfois il est quand même un peu susceptible. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait comme travail ? On n'a pas trop d'idées, on pense que c'est un guerrier, voilà. Et en tout cas, il a eu comme mentor Panoramix, le druide, voilà. Alors, son copain, né le même jour que lui, c'est Obélix, fils d'Obéladolix et de Gélatine. Alors lui, il est repéré comme un tailleur et un livreur de menhirs. Contrairement à Astérix, qui est plutôt la ruse, lui, c'est plutôt la force brute, colérique, mais avec une certaine tendresse. Hein. C'est-à-dire que Goscinny dit que ce personnage, c'est un adulte naïf, mais pas bête. Hein. Naïf, maladroit, touchant. Il est tombé dans la potion magique quand il était petit, donc il est toujours en super force et en super forme. Il a un animal de compagnie, Idéfix, qu'il va comprendre, il va le chérir, il va dialoguer avec lui, c'est comme Tintin et Milou, à partir du Tour de Gaulle. C'est un amoureux transi et déçu de la belle Falbala, promise à un légionnaire, et en tout cas, c'est un bon vivant, un bon mangeur, amateur de sangliers et de cervoises. Alors, le personnage qui joue l'antagoniste dans cette histoire, il s'appelle Tullius Detritus. Donc, tout est dans le nom. Hein. C'est un individu vénéneux, hein, comme une mauvaise herbe. C'est le sang de Zizanie en grec, d'ailleurs, hein, la mauvaise herbe. C'est un lanceur de rumeurs, un provocateur. Il va attiser la jalousie, la calomnie et la suspicion dans le petit village. Et on peut dire que c'est un disciple de Machiavel. Au moment où sort l'album, c'est le 500e anniversaire de la disparition de ce stratège politique italien pour qui diviser était une solution pour régner. Et la forme du personnage, petit chafouin au teint olivâtre, va donner des éléments en plus pour nous l'indiquer comme un méchant idéal dont la seule force est sa force de persuasion. Et on va retrouver le nom de Détritus comme injure faite par François Hollande à Martine Aubry en 2015. Donc vous voyez, ça a bien marqué l'inconscient politique de notre pays. Alors, un personnage qui apparaît dans une petite scène de ménage au début de la planche, c'est Abra Racourcix. Lui, c'est un fils de chef tribun. Il trône sur le bouclier Arverne, donc il a combattu auprès de Vercingétorix. Et son épouse Bonne Mine est un personnage assez ambivalent qu'il adore, elle l'appelle Cochonnet, mais en même temps elle le vitupère régulièrement comme on le voit, on l'écoute au début de cette planche. Voilà. Alors, pour parler maintenant des influences graphiques et du travail magnifique fait pour le dessin, on peut dire que ces personnages relèvent du style gronné caricatural qu'on va retrouver chez Florence Sestac aussi et pas d'autres auteurs franco-belges. Mais par moments, ce style se fait semi-réaliste. Quand on voit le trait de César, de Falbala ou du bébé dans Le Fils d'Astérix, là, on n'est plus dans la caricature. Et en tout cas, Uderzo, au fur et à mesure, à part le premier tome, qui était un petit peu figé, va développer un sens subtil de la disproportion et du paysage. On a des magnifiques paysages bucoliques. Son trait est souple, varie en densité. Il travaille sur un coloriage très vigoureux, avec des beaux aplats de couleurs et des couleurs vives. Il a été très influencé, Uderzo, par Les Pieds Nickelés de Forton, Zig et Pus de Saint-Augin, et aussi une série peu connue, L'Indien Patoruzzu de Danke Quinterno, aussi Calvo, qu'il avait rencontré quand il était petit, et bien entendu Mickey de Walt Disney, ainsi que Pogo de Walter Kelly au niveau du style. Voilà, donc plein d'influences. Et aussi dans cette BD, plein de références. Alors, référence au cinéma, à la façon dont Goscinny crée un script de BD, il est très précis. Il y a les lieux, les décors, les cadrages. Donc voilà, un tapuscrit, on les trouve dans les documents des différentes expositions. C'est vraiment très très précis, très cinématographique. Des références à certains cinéastes, à certains films, cinéma de Plagnol, de Fellini, de Mankiewicz. Mankiewicz, c'est pour l'histoire d'Astérix et Cléopâtre. Plein de caméos, de caricatures de grands acteurs du cinéma. Un sens de l'humour et du burlesque qu'on retrouve chez Chaplin, et puis se dire que Astérix et l'Obélix, c'est un peu Laurel et Hardy par moment. Le sens de la parodie et de la satire qu'on avait chez la revue Mad, et puis des fois des hommages à des grands peintres, notamment on passe Astérix et les Belges, le banquet de Bruegel, Rembrandt, la dissection, la leçon d'anatomie, Guérico, le naufrage, le radeau de la Méduse. Voilà, donc un plaisir visuel hein, à chaque fois quand on redécouvre Astérix. Alors pour autant, on a dans cette série toute une série de thématiques qui peuvent être parfois actuelles et qui nous marquent. Alors quelques éléments, on a une expo à Citeco aujourd'hui à Paris qui voit Astérix sous l'angle de l'économie. Et c'est vrai que la question de la crise économique a été citée et développée dans Le Chaudron, Les Helvètes, Obélix et compagnie. La question du populisme et du snobisme dans La Serpe d'Or, Les Lauriers de César, la corruption des élites, le combat des chefs, la guerre et la collaboration, Astérix chez les Gaules, le bouclier Arverne, le développement anarchique de l'urbanisme dans Le Domaine des Dieux, les superstitions dans Le Devin, le consumérisme dans Astérix Gladiator, le tourisme de masse dans Astérix en Hispanie, et aussi une belle parabole sur l'invention d'une nation, qui est un thème qui transverse un petit peu tous les albums et qui est vraiment là en très présent dans le dernier album scénarisé par Goscinny, Astérix chez les Belges. Alors forcément, cette série, elle a une grosse postérité. Postérité, une publication en 117 langues et dialectes qui vient invalider l'idée que cette série serait raciste et xénophobe. C'est pas du tout le cas. Uderzo, lui, très peiné par la mort de son ami en 77, va quand même continuer seul pendant 25 ans. Il va faire 9 albums. Voilà, il avait toujours un trait inégalable. Il va donner une partie de ses planches à la BNF en 2013. Ça va nous valoir une belle exposition et un beau catalogue. Et la série va être reprise par Ferry et Conrad. Alors effectivement, Goscinny étant disparu, Uderzo, lui, a varié sur l'idée que la série devait lui survivre ou pas. Il a changé d'avis, un peu poussé par Anne Goscinny, qui souhaitait qu'après Uderzo, la série continue. Et il a quand même, avec les éditeurs, travaillé avec Ferry et Conrad, qui sont les repreneurs officiels de la série. Donc il les a adoubés, il leur a donné des conseils. Donc la série est repartie depuis 2013. Hein. Uderzo nous quitte en 2020. Il y a 5 albums. On a 10 films d'animation, pas toujours intéressants. 5 films en prise de vue réelle, de moins en moins intéressants, souvent. Et un parc d'attractions qui peut amuser les grands et les petits. Et effectivement, des expositions. Hein. Une expo en Cluny, musée de Cluny, musée du Moyen-Âge, et actuellement à Citeco à Paris. Alors, c'est effectivement très chouette, ça donne envie de relire tout ça, de se dire que cette série, elle a du sens, forcément, si elle se vend toujours autant, si c'est un succès de librairie. Alors, ce succès, il s'installe dès 65, hein, 5 ans après le début. On commence à avoir des lectures partisanes. Tout le monde essaye de récupérer Astérix. Hein. On y voit une allusion politique à l'élection de De Gaulle en 69. Bon, Goscinny et Uderzo vont être très très sceptiques vis-à-vis de tout ça. Ils ne veulent pas se faire récupérer. Hein. Beaucoup de gens ont dit finalement, c'est quoi le village gaulois ? Ben, c'est la France gaulliste qui résiste aux Américains. Bon, dans Le ciel nous tombe sur la tête, on va avoir un Uderzo qui montre les Gaulois résistant à l'invasion des comics et des mangas. C'est un petit peu maladroit, parce que d'habitude l'allusion elle est beaucoup plus fine. Et en tout cas, l'album que nous commentons aujourd'hui, il est totalement d'actualité sur la question de la guerre psychologique qui serait menée par le pouvoir. Notamment, on parle aujourd'hui des nudges, qui sont des moyens de communiquer qui vont abolir le consentement et créer des dissensions. On peut se dire que l'opinion, justement, est manipulée par des pros de la communication. Et on peut dire que, finalement, Astérix n'est pas du tout une œuvre nationaliste, mais une œuvre universelle. On avait un panneau à l'expo BNF qui montrait cette universalité des valeurs. Alors, c'est quoi les valeurs d'Astérix ? Ben, je crois qu'il faut les rappeler. Hein, c'est que cette série, aujourd'hui, dans le monde en crise que nous traversons, hein, eh bien, Astérix a le mérite de nous rappeler la force de l'amitié, de la solidarité et de la résistance. Donc, longue vie aux petits Gaulois.